On appelle cogénération la production combinée d'énergie thermique et d'énergie mécanique ou d'électricité. L'idée de base de la cogénération est que les combustions se déroulent toutes à des températures très élevées, supérieures à 1000 degrés Celsius, alors que les besoins de chaleur dans l'industrie ou pour le chauffage se manifestent à des températures plus basses, généralement entre 80 degrés Celsius et 300 degrés Celsius. Dans ces conditions, il est tout à fait possible, lorsqu'on a recours à la combustion pour satisfaire des besoins en chaleur, de tirer parti de cet écart de température pour produire de l'électricité par l'intermédiaire d'un cycle moteur. Il suffit pour cela que la source chaude du cycle moteur soit la chaudière ou la chambre de combustion, et la source froide, les besoins de chaleur. L'intérêt principal des cycles de cogénération est qu'ils sont parmi les plus performants sur le plan énergétique. Généralement, les objectifs poursuivis par la cogénération sont doubles. D'une part, réaliser des économies d'exploitation et d'autre part, garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité d'une partie au moins des unités. Compte tenu de leur finalité, on peut regrouper les installations de cogénération en trois classes. Tout d'abord, les installations chaleur-force, où la chaleur constitue le produit de base, l'électricité n'étant qu'un sous-produit permettant de mieux valoriser le combustible. C'est le cas des usines grosses consommatrices de chaleur ou des centrales de chauffage urbain ou d'incinération d'ordures ménagères. La priorité est accordée à la fourniture de la chaleur, l'électricité, facilement transportable, étant valorisée par revente des excédents à EDF. En cas de coupure du réseau EDF, l'usine fonctionne en îlotage. La deuxième classe correspond aux installations dites à énergie totale qui cherchent à assurer l'autonomie sur le plan électrique, la chaleur étant le sous-produit. Il s'agit généralement d'usines non reliées au réseau ou de navires. La troisième classe correspond aux installations non autonomes, sous-dimensionnées pour des raisons économiques, pour lesquelles un complément est assuré pour l'électricité par EDF et pour la chaleur par une chaufferie classique. L'installation ne fonctionne que quand les tarifs de l'électricité sont élevés et les besoins de chaleur importants. Ce type d'installation est assez fréquent, car c'est souvent celui qui conduit au meilleur bilan financier pour l'entreprise. Sur le plan technique, on a coutume de classer les installations de cogénération en deux grandes familles, selon le type de cycle moteur utilisé. D'une part, les installations à chaudière et turbine à vapeur, qui sont très répandues, l'intérêt de ce type de configuration étant connu depuis plus d'un siècle. Elles permettent d'utiliser une grande variété de combustibles, notamment du charbon ou des déchets. D'autre part, les installations à moteur à combustion interne, qui utilisent soit des turbines à gaz, soit des moteurs alternatifs, diesel et surtout moteurs à gaz. L'énergie thermique est récupérée sur les gaz d'échappement ainsi que sur les fluides de refroidissement et de lubrification. Seuls les combustibles liquides et gazeux peuvent être employés dans ces moteurs. Une installation de cogénération produit à la fois de la chaleur et de l'électricité. Pour pouvoir qualifier ses performances sur le plan à la fois réglementaire et technique, on introduit un certain nombre d'indicateurs que nous allons définir. Appelons QC la chaleur fournie à la machine de cogénération, c'est-à-dire libérée par la réaction de combustion, QU la chaleur utile, TO l'énergie mécanique ou électrique produite. Dans ce qui suit, ces différentes énergies sont exprimées dans la même unité, généralement le kilowattheure. On appelle rendement mécanique le rapport ETAM égale TO sur QC. Il caractérise les performances de l'installation en tant que générateur d'électricité. Les meilleurs rendements mécaniques sont obtenus dans les centrales électriques classiques où QU égale 0. On appelle rendement global le rapport étagé égale TO plus Q sur QC. Il caractérise, sur le plan énergétique, le rendement d'ensemble de l'installation. On appelle rapport chaleur-force le rapport CF égale QU sur TO. Il est représentatif de la répartition de la production d'énergie entre la chaleur et l'électricité. On appelle enfin consommation spécifique équivalente le rapport CE égale QC moins QU sur état C, le tout sur TO, état C étant un rendement moyen de chaudière classique, prix généralement égal à 0,9. La consommation spécifique équivalente représente à peu près la consommation d'énergie primaire conduisant à la production d'un kilowattheure électrique. Dans une installation de cogénération à chaudière et turbine à vapeur, on dispose selon les cas d'une seule turbine dite à contre-pression ou de deux turbines dites à soutirage et à condensation. Dans les turbines à contre-pression, bien adaptées lorsque les besoins de chaleur varient peu, la vapeur est produite dans la chaudière à une pression initiale généralement comprise entre 30 et 50 bars. Elle est détendue à une pression, dite contre-pression, d'environ 2 à 6 bars et à des températures de 130 à 160 degrés Celsius. Cette vapeur est ensuite utilisée directement dans des procédés ou dans un réseau de chaleur. Dans les turbines à soutirage et condensation, la totalité de la vapeur traverse le corps haute pression qui se comporte comme une turbine à contre-pression. Une fraction est ensuite soutirée pour alimenter des procédés ou un réseau de chaleur, tandis que le reste est détendu dans un corps basse pression pour être finalement condensé, soit par de l'air de refroidissement, soit par de l'eau. Ce type de turbine permet de découpler très largement la production d'électricité de celle de chaleur et se révèle donc très bien adapté pour des installations de cogénération utilisées pour le chauffage des locaux. En été, le soutirage est minimal et la production d'électricité maximale. En hiver, c'est l'inverse. Le rendement global des installations à contre-pression est cependant légèrement supérieur à celui des unités à soutirage et condensation, car dans ces dernières, une partie de la chaleur est évacuée au condenseur. Ces configurations sont très utilisées pour des applications où les besoins de chaleur sont importants, comme dans les usines d'incinération d'ordures ménagères, les centrales de chauffe des réseaux de chaleur et des industries lourdes. Étudions maintenant les installations de cogénération à moteur alternatif à combustion interne. Une première solution consiste à refroidir le moteur par un flux d'air qui, en série, assure son refroidissement convectif, puis traverse un échangeur de récupération sur les huiles, l'intercooleur de suralimentation si elle est pratiquée, le radiateur sur circuit de refroidissement classique, puis enfin un échangeur air-fumé sur les gaz d'échappement. L'air chaud est ensuite utilisé pour du séchage, son enthalpie étant, si nécessaire, relevée par un brûleur complémentaire. La deuxième solution, la plus simple et la plus courante, est représentée sur cette figure. Elle permet de produire soit de l'eau chaude à une température voisine de 100 degrés Celsius, soit de la vapeur surchauffée à 110-120 degrés Celsius en appoint d'une chaufferie classique. Selon sa pureté, l'eau peut être directement réchauffée dans le moteur ou doit passer dans un échangeur à basse température. Elle récupère ensuite de la chaleur sur les gaz d'échappement dans un échangeur placé en série. Des centaines d'unités de ce type de toute puissance, de quelques kilowatts à plusieurs mégawatts, sont installées dans le monde. Voici un exemple d'installation de cogénération utilisant un moteur à gaz modèle E2842LE fabriqué par MAN des Centrale Energie Systeme. Le modèle Thermoptime reprend celui que nous avions présenté lors de l'étude des moteurs alternatifs à combustion interne en le complétant par les deux échangeurs de cogénération. Vous l'étudierez en exploration dirigée. Le couplage à la chambre de combustion est effectué en utilisant une fonctionnalité de Thermoptime que nous n'avons pas encore introduite, celle de thermocoupleur. Un thermocoupleur complète les échangeurs de chaleur en permettant à des composants autres que des transfo-échanges de se connecter à une ou plusieurs transfo-échanges pour représenter des couplages thermiques. Pour une chambre de combustion, le calcul est effectué afin d'équilibrer la puissance thermique cédée au fluide de refroidissement elle-même définie par le rendement de combustion choisi. Dans cet exemple, il vaut 0,79, ce qui signifie que 21% de la puissance libérée par la combustion est transférée via le thermocoupleur. L'écran du thermocoupleur est analogue à celui d'un échangeur, la transfo échange apparaissant à gauche de l'écran sous le nom de thermal fluid et la chambre de combustion à droite sous le nom de process. Dans ce cas, l'utilisateur n'a le choix qu'entre deux modes de calcul. Soit calculer la température de sortie de la transfo échange à débit donné, soit calculer le débit, cette température étant connue. Dans cet exemple, nous avons choisi de déterminer la température de sortie, le débit de fluide de refroidissement étant connu. La puissance thermique communiquée à l'eau est de 239 kW. Le deuxième échangeur sur les gaz d'échappement est tout à fait classique. En choisissant une efficacité égale à 0,7, une puissance complémentaire de 222 kW est récupérée. Voici le bilan de l'installation de cogénération. Les différents indicateurs que nous avons introduits auparavant sont indiqués. Étudions maintenant les installations de cogénération à turbine à gaz. Dans les turbines à gaz, la totalité des chaleurs résiduelles se retrouve dans les gaz d'échappement. La performance du système de cogénération est donc directement fonction de la valorisation de ces gaz. Une première solution consiste à refroidir les gaz d'échappement dans un échangeur air-fumé qui permet de chauffer de l'air qui est ensuite utilisé pour plusieurs applications. En cas d'arrêt de la turbine, une chaudière auxiliaire garantit la fourniture de chaleur pour les besoins de l'usine. On utilise généralement en cascade plusieurs échangeurs de récupération sur les gaz d'échappement afin de pouvoir les refroidir le plus possible et disposer d'air à différentes températures pour divers usages. Une autre solution, très employée aujourd'hui, notamment pour remplacer une chaudière existante, est d'installer un générateur de vapeur GVR en sortie de la turbine à gaz. La problématique d'optimisation de ces échangeurs de récupération est très semblable à celle des cycles combinés. La meilleure configuration doit à la fois refroidir au mieux les gaz d'échappement de la TAG et fournir la chaleur au meilleur niveau de température possible en fonction des besoins. Lorsque la turbine à gaz utilisée est une microturbine d'une puissance inférieure à 100 kW, on peut se contenter de réchauffer de l'eau, soit en amont d'une chaudière existante, soit pour des usages d'eau chaude sanitaire. L'échangeur récupérateur est alors plus simple et moins coûteux que s'il s'agit d'un GVR. Un autre schéma très performant consiste à utiliser directement les gaz d'échappement comme fluide chaud dans un séchoir. Comme dans le cas du moteur alternatif, la turbine est elle-même placée dans le flux d'air, de telle sorte que la totalité des pertes peut être récupérée, ce qui conduit à un rendement global proche de 1. De plus, la pression de sortie des gaz d'échappement est suffisante pour éviter tout ventilateur. Les températures des gaz chauds, 400 à 500 degrés Celsius, étant compatibles avec de nombreux besoins industriels, les applications de ce dispositif sont multiples. Une micro-turbine à gaz est une turbine à gaz de petite puissance, quelques dizaines de kilowatts, fonctionnant généralement avec un faible rapport de compression et avec un régénérateur pour en améliorer les performances. Dans l'installation qui nous intéresse, une micro-turbine de 100 kW est utilisée pour porter 1,82 kg par seconde d'eau de 70 à 90 degrés Celsius. La turbine aspire 0,78 kg par seconde d'air, qui est comprimé à 5 bars, puis passe dans un régénérateur avant d'être porté à 950 degrés Celsius dans la chambre de combustion brûlant du gaz naturel. Les gaz sont détendus jusqu'à la température de 650 degrés Celsius, puis traversent successivement le régénérateur et l'échangeur de cogénération. Un compresseur de gaz est nécessaire pour rehausser la pression du gaz naturel du réseau GRDF. La modélisation en termes optimes d'une telle installation ne pose pas de problème particulier et conduit au synoptique de cette figure. On a ici comptabilisé dans l'énergie utile non seulement les travaux de compression et de détente, mais aussi l'énergie thermique fournie au circuit d'eau, ce qui conduit, pour les conditions d'utilisation retenues, à un rendement global de près de 82%. Environ 125 kW de puissance électrique et 153 kW de chaleur pour une consommation de 340 kW de combustible. Le rendement mécanique vaut 36,7% et le rapport chaleur-force 1,23.